Vous écoutez RTL. RTL, la curiosité est un vilain défaut.
De 14h à 15h, avec Sidonie Bonnec et Thomas Hugues.
Bonjour à vous les curieux, qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver pour une heure d'histoire, de grands destins, de révélations et des frissons. Vous allez bien Thomas?
Ça va très bien, salut Sidonie. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. La curiosité, vous savez, c'est votre nouveau rendez-vous sur RTL du lundi au vendredi de 14h à 15h. Il y a quoi au programme Sidonie?
Elles sont présentes partout, dans les bonbons que mangent nos enfants, dans nos médicaments, mais aussi dans nos pneus, dans les tatouages ou les prothèses de hanches. Elles, ce sont les nanoparticules infiniment petites. Leurs propriétés sont extraordinaires, mais sont-elles dangereuses pour notre santé? Réponse tout à l'heure.
Et tout de suite, on vous raconte l'histoire du plus célèbre des narcos, Pablo Escobar.
RTL. Il paraît que vous cherchez des gardes du corps efficaces.
Si, d'ici 5 ans, j'ai pas un million de pesos dans mon portefeuille, je me tire une balle.
L'ambition, l'argent.
La curiosité est un vilain défaut.
Il va devenir le plus grand narcotrafiquant de tous les temps, Pablo Escobar, le patron du mal.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
Pablo Escobar fascine, héros de la série télé Narcos. Son fils vient de publier aussi un livre dans lequel il dit tout de son drôle de papounet. On a voulu connaître les secrets du narcotrafiquant le plus célèbre du monde avec un journaliste, un producteur qui est le seul journaliste français en tout cas à l'avoir rencontré, Tony Comiti. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Bonjour Tony.
Vous l'avez rencontré à quelle occasion Pablo Escobar et ça s'est passé comment?
Bah, écoutez, c'était à la suite d'un reportage que j'avais fait avec Jean Bertolino sur le trafic d'émeraude en Colombie.
Jean Bertolino, le grand présentateur de...
Ouais, fondateur de 52 à la Lune. Voilà, ouais. Donc. Et nous avions donc fait un reportage sur les émeraudes. Il faut savoir que émeraude et coke, c'est très lié, parce que c'est le blanchiment, c'était les mêmes mafias, en fait. Et je me trouvais à l'hôtel Tequendama, au centre de Bogota, lorsque je regardais la télé. Et le fils de Fabio Ochoa, qui était en fait le vrai parrain Medellin. Escobar n'est pas le parrain Medellin, il y avait un vrai parrain.
Qui était son collègue de travail quand même?
C'est pas son collègue de travail, c'est un parrain. C'est, en fait, Don Fabio Ochoa a initié le trafic de marijuana. Tout simplement, c'était un grand passionné de chevaux et de chevaux de paso colombien. Vous savez, c'est ces chevaux de concours qui lèvent les pattes très hautes et qui est dans les foires internationales d'Amérique du Sud et du sud des États-Unis en Floride. C'est très prisé. Et Don Fabio Ochoa a initié le trafic de marijuana en chargeant les chevaux dans l'arrière-train de ces pauvres animaux. Et il arrivait comme ça. Il a initié, en fait.
C'est là qu'il mettait la drogue.
C'est là qu'il mettait la drogue.
Et ouais. Alors donc, comment vous vous retrouvez? Donc vous êtes en train de faire un reportage et on vient vous chercher, c'est ça? Vous êtes devant la télé, on vient vous chercher?
Non, je suis en train de regarder les news sur la télé colombienne. Et le fils de Don Fabio Ochoa venait d'être arrêté. Il faisait partie du cartel de Medellín, Jorge Luis Ochoa. Et là, j'ai vu une image hallucinante à la télé colombienne. Il y a ce Don Fabio Ochoa qui est une espèce de Falstaff, 150 kilos, entouré de gardes du corps avec un poncho blanc comme ça, Gargantua quoi en gros, qui disait mais mon fils va sortir et c'est la Vierge qui va lui montrer le chemin de la liberté. En fait, Jorge Luis Ochoa s'est évadé quelques mois après.
Et vous allez à sa rencontre, Tony Comiti d'Ochoa, et c'est lui qui vous propose et qui vous donne l'idée de rencontrer Pablo Escobar?
Alors c'est pas si simple de rencontrer les gens du cartel. Voilà, il faut quand même savoir qu'ils ont tué plus de 80 journalistes colombiens. Ils n'avaient jamais touché à des journalistes étrangers, mais nous, on a été menacés après. Enfin bon, bref.
Ça, on va le raconter.
Et voilà. Et donc, en parlant avec des journalistes colombiens, on me dit, tu sais, c'est un peu compliqué, mais si tu vas à Medellín, tu vas à l'Intercontinental, tu ne peux pas les louper, les narcos.
Parce que c'est l'hôtel des narcos, c'est ça?
C'était l'hôtel principal de Medellín. Donc, tu ne peux pas les louper, ils sont tous au bar. Tu verras, ils ont des chapeaux blancs, ils ont des armes, ils ont des Toyota blanches. Ben, c'est à toi de voir. Et je me suis rendu à Medellín. Effectivement, j'ai pris contact là avec la base, avec ce qu'on appelle les sicarios, les tueurs. Voilà, ça a commencé comme ça. Mais ça,
alors, comment vous rencontrez Pablo Escobar? Parce qu'on doit avancer dans notre histoire. Voilà. Vous allez toquer, on vous donne une adresse, vous toquez à la porte?
Non.
Ça se passe pas tout à fait comme ça.
Pas du tout comme ça. En fait, avec Jean Bertolino, on a réussi à convaincre Don Fabio Ochoa, le vrai parrain de Medellín, d'un reportage. Alors, ils se sont renseignés sur nous, savoir c'est parce que quand on n'était pas infiltré par la DEA ou par les antinarcos, ils se sont renseignés, ils ont mené une vraie enquête, qui a duré quand même 2-3 mois, avant de nous accepter. Une fois qu'ils ont été convaincus qu'on était des journalistes, en plus, ils ne voulaient pas donner ce scoop aux Colombiens, aux journalistes colombiens, et surtout pas aux Américains. Ils avaient envie de s'exprimer, et c'est comme ça qu'en fait, ils ont accepté. Donc, on a passé plus d'un mois avec la famille de Don Fabio Ochoa.
Et alors là, on va vous bander les yeux, vous allez monter dans une voiture, et soudain, vous allez arriver quelque part. Ce quelque part, on va le découvrir dans un instant, avec vous, Tony Comiti, et dans La Curiosité sur RTL.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
4000 soldats déployés. Des dizaines de milliers de cartouches tirées.
RTL.
Et 4 hélicos, putain. Pablo Escobar était encerclé au milieu de nulle part. Il n'avait aucun moyen de s'en tirer cette fois.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Ah ouais.
Jusqu'à 15h sur RTL.
C'est le héros des deux premières saisons de la série Narcos, dont on vient d'entendre un extrait. 24 ans après sa mort, Pablo Escobar continue d'attiser notre curiosité. C'est le journaliste et producteur Tony Comiti qui nous dresse son portrait. Pardon, Tony. Vous l'avez rencontré, on le disait, en mars 88 pour un reportage qui était destiné à être diffusé sur TF1. Donc on vous récupère, on vous bande les yeux, trajet en voiture. J'imagine, il ne faut pas savoir que vous puissiez savoir où ça va se passer. Moi, j'ai la curiosité de découvrir le visage de cet homme et la façon dont il vous accueille. On vous retire le bandeau des yeux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il vous dit?
Alors, si vous voulez, bon, il faut savoir quand même qu'il était recherché par toutes les polices colombiennes. La DEA, c'était vraiment l'homme à abattre.
La DEA, c'est la lutte anti-drogue américaine.
Les anti-narcos américains. Donc, rencontrer Pablo Escobar, ça a été compliqué. Donc, on imagine bien les précautions qu'ils ont prises pour nous amener jusqu'à lui. On est arrivé, on est sorti de voiture avec Jean Bertolino. Après avoir tourné, moi, je pense qu'on a tourné en rond autour de Medellín. Et puis là, on est rentré dans une espèce de grand hall, une maison, une hacienda. Et on nous a dit, ne filmez pas. Évidemment, j'ai déclenché sous le bras ma caméra, et à l'entrée de la propriété, il y avait au moins une trentaine de types armés, des sicarios, les tueurs, là, en short et en tong, avec des mitraillettes Uzi. Et puis on a traversé la propriété, et au bout de la propriété, s'élevait près de la piscine, au fond de la piscine, s'élevait un petit bonhomme, un peu rondouillard, en maillot de bain, avec une casquette sur la tête.
En maillot de bain, Pablo Escobar.
Voilà, il était en maillot de bain. À la cool,
ouais.
Et ouais, qu'est-ce qu'il vous dit, c'est quoi ses premiers mots?
Il est arrivé, et Don Fabio, le parrain de Medellín qui nous accompagnait, nous dit « Don Pablo Escobar ». Il est arrivé vers moi, je lui ai dit « Tony Comiti ». Il s'est approché à l'oreille, il me dit « Je n'aime pas les caméras ». Ça a commencé comme ça.
Ça commence mal. Bon.
Je peux vous dire que dans ces cas-là, vous regardez bien si le voyant rouge de votre caméra est allumé. C'est la seule chose à laquelle vous pensez.
C'est-à-dire qu'il a été filmé tout le long de votre entretien,
oui,
sans qu'il le sache.
Ben oui, voilà un peu.
Mais vous êtes fou, Tony Comiti, c'est hyper dangereux.
Ben, écoutez, aujourd'hui, je pense que les gens se méfieraient plus, mais là, à l'époque, ils ne se méfiaient pas trop. Enfin bon, bref, il ne voulait pas assister à l'interview. Il était un peu en retrait. Et il voulait que s'expriment plus les autres personnes du cartel, Ror et Luis Ochoa, qui s'étaient évadés de prison, qui étaient aussi en cavale, qu'on a retrouvé là, chez Pablo, et puis deux autres personnes du cartel. Donc, et puis tout d'un coup, on a commencé l'interview avec Don Fabio, Rorel Luis Ochoa, il était au bout de la table, il s'est levé, j'ai senti une odeur terrible de très bonne marijuana, je pense qu'il est parti se faire un joint derrière un arbre, et puis doucement il est revenu face à l'interview, et là Jean Bertolino l'a interviewé pendant une demi-heure.
Donc il savait qu'il était interviewé.
Absolument.
Et filmé à ce moment-là.
À ce moment-là, il le sait.
À
ce moment-là, il est tout à fait conscient.
On a un extrait de votre documentaire, c'était 52 sur la Une, Le Parrain de Medellín. Écoutez ce que vous raconte Pablo Escobar, notamment à propos des Américains.
Actuellement, c'est la cocaïne qui est dangereuse. C'est elle le mal, parce qu'elle échappe au contrôle des Américains, parce que ce sont les Colombiens qui la produisent. C'est ça le problème fondamental.
Vous nous disiez que ce que vous aviez découvert pendant cette interview, Tony Comiti, c'était comment il fabriquait sa drogue.
Alors, on
n'a
pas découvert là, mais j'avais pu filmer des labos clandestins. Et c'est la cocaïne, c'est simple, ça vient de la feuille de coca qui est macérée pendant 48 heures dans un produit, je crois que c'est de l'acétylène. Derrière, c'est repassé dans de l'acide sulfurique. Voilà ce que les gens se mettent dans le nez, c'est quand même. Et après, alors, sort une pâte qui s'appelle la base ou le crack. et cette pâte est cristallisée.
Voilà, et ça, c'est quoi ? C'est un processus un peu industriel ou c'est artisanal ce que, la
Alors,
façon de produire la drogue pour un cartel comme celui-là ?
Ça a été un trafic de fourmis, ça a été artisanal pendant de longues années, mais Pablo Escobar en a fait une industrie. Mmh. Il avait notamment monté en pleine jungle une immense hacienda de je ne sais plus combien, de 320 000 hectares, un truc énorme, dans lequel il y avait des hôtels, dans lequel il y avait ce qu'ils appelaient le Coca-Land. Et là, il avait complètement industrialisé la cocaïne.
Alors, est-ce que vous passez un bon moment avec Pablo Escobar ? Est-ce qu'il discute facilement ? Il vous parle de sa passion de la drogue ? Parce que c'est une passion la drogue chez Pablo Escobar.
C'est ce qu'il m'a dit en partant. Il m'a dit, comme il m'a appelé Don Tony, je l'ai appelé Don Pablo, et il m'a dit « Revenez me voir, la drogue est ma passion. »
Il vous a menacé quand même, pendant cet entretien ?
Avant la diffusion du film, on a été menacé. Pendant l'entretien, non, on a eu un show à un moment, parce que ma caméra était enfin, la cassette se terminait, et j'ai voulu prendre une autre cassette dans mon sac, et j'ai senti là un déclic, c'est un type, un sicario, un tueur qui était juste derrière moi, quand il a vu que je mettais la main dans mon sac pour changer de cassette, il a armé son 9 mm et me l'a posé comme ça sur la nuque, et Don Pablo lui a dit non, tranquillo.
Ah oui, quand même.
Todo tranquillo.
Voilà.
Et je vous assure, quand vous.
On le croit.
C'est Jean Bertolino qui menait l'interview. Moi, à l'époque, je suis grand porteur caméraman. Je vous assure que dans ces moments-là, vous regardez le voyant rouge de votre caméra. Vous n'écoutez même pas l'interview.
Il faut que ça filme.
Oui.
La suite de cette incroyable rencontre et aussi l'histoire de Pablo Escobar. On le voit se dessiner en creux, ce patron du cartel, ou en tout cas l'un des patrons du cartel de Medellín. C'est dans un instant dans la curiosité. Restez avec nous sur RTL.
14h-15h.
RTL.
Septembre 2016, juin 2017, saison record pour RTL. Vous n'avez jamais été aussi nombreux à nous écouter depuis 15 ans.
Merci beaucoup.
Merci infiniment.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci à tous.
RTL, c'est chaque jour près de 6 600 000 auditeurs. Merci de votre confiance. Merci de votre fidélité. RTL, première radio de France.
Pablo Escobar, rabattu par l'armée, l'a appris il y a moins d'une heure. Escobar était le chef du cartel de Medellín. Pablo Escobar avait 44 ans. Il était considéré comme le principal baron colombien de la drogue. Il s'était évadé il y a un an et demi de la prison d'El Vigado, près de Medellín. On n'avait pas eu de nouvelles depuis, il se cachait. Et les États-Unis et la Colombie avaient offert, il y a quelques mois, une récompense de plus de 8 millions de dollars pour sa capture.
Extrait du journal d'Edouard Dacosta sur RTL le 2 décembre 1993. Le baron de la drogue, Pablo Escobar, était abattu dans son fief de Medellín, en Colombie. Tony Comiti, vous l'aviez rencontré 5 ans auparavant. Comment Pablo Escobar est-il tombé ? Est-ce qu'il a été piégé ? Et par qui ?
Le talon d'Achille de Pablo Escobar, c'est sa famille. Donc, dans sa cavale qui devenait infernale quand on est poursuivi par toutes les polices du monde, il a négocié avec le gouvernement colombien l'extradition de sa famille, sauf que les Américains n'en voulaient pas, les Sud-Américains n'en voulaient pas. Sa femme était allée en Afrique voir, mais elle avait trouvé que c'était des sauvages. Elle avait dit à Pablo, non, c'est pas possible, je peux pas aller vivre en Afrique. Les seuls qui acceptent, et curieusement, c'est l'Allemagne. Mais c'est un piège formidable qui est tendu par la DEA et les services anti-narco-colombiens.
Parce que l'Allemagne n'en voulait pas.
Si, si.
Ah si, en vrai, quand même.
L'Allemagne autorise l'arrivée de Pablo Escobar, de la famille de Pablo Escobar. Donc, ils vont prendre un avion. En fait, c'est un piège. Ils vont prendre un avion avec, entouré de leur garde du corps, de la Lufthansa, Bogota, Francfort. Ils sont en première. Tout le monde descend. La police allemande rentre à bord et dit non, vous ne rentrez pas en Allemagne. Donc l'avion repart sur la Colombie et la femme de Pablo Escobar et ses enfants se retrouvent toutes seules à l'aéroport de Bogota. Toutes seules. Sans garde du corps, sans rien. Ils prennent un taxi et ils vont à l'hôtel Tequendama, qui est l'hôtel central de Bogota. Là, le fils de Pablo Escobar va appeler son père. Et là, c'est panique. C'est la panique. Il y a les grandes oreilles, il y a les avions qui sont au-dessus de Medellín, qui avec les écoutes. La voix de Pablo Escobar a été enregistrée et ils vont localiser la planque de Pablo Escobar. Alors, à ce moment-là, Pablo Escobar téléphone à sa famille depuis des taxis. Il avait une compagnie de taxis et il allait, venait. Et sauf qu'à un moment, il panique tellement qu'il rentre dans sa planque et il appelle son fils. Il panique tellement, il dit à son fils, mais appelle le président de la République, il va vous sortir de là. C'est là qu'ils vont le localiser avec les grandes oreilles. Sa voix est enregistrée et la police colombienne va donner l'assaut.
Est-ce qu'il a été trahi par l'un des siens, Pablo Escobar ?
Alors, je pense que son frère, Roberto Escobar, alias Mâchoire d'Acier, a négocié sa tranquillité en informant la DEA et les services américains. C'est ce que tout le monde dit aujourd'hui.
Comment réagit la population colombienne à l'annonce de la mort de Pablo Escobar ?
Alors, Pablo Escobar, c'est un héros en Colombie, malgré que ce soit un des plus grands criminels hein, des mafias.
Il a tué 80 journalistes, il a fait tuer 1000.
1000 policiers, c'était 1000 dollars pour la mort d'un policier. Donc voilà, on tue un policier, Pablo Escobar donnait 1000 dollars. Des juges d'instruction, des magistrats, un ministre de la justice, un candidat, M. Galán, qui était pour l'extradition, tout ce qui était pour l'extradition. Il a quand même fait sauter l'administration de police de Bogota. Il y a eu 300 morts dans une voiture piégée. Non, c'est un grand criminel.
Et malgré tout, il était populaire auprès
il
de la population. Pourquoi ?
Parce que son discours, ce qu'il nous a dit dans l'interview que nous avons menée avec Jean Bertolino, il avait un discours contre l'oligarchie colombienne. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était trois familles qui tenaient la Colombie et le peuple était. Voilà, le peuple crevait de faim.
Donc, oui, mais il n'y avait pas seulement les discours. Tony Comiti, il y avait aussi.
Pablo Escobar a construit des hôpitaux, a construit des écoles,
des logements sociaux,
réparé les clochers des églises,
même des stades de foot.
Il était fanat de football et des orphelinats. Mais il faut savoir que dans les orphelinats, il recueillait les gamins de 15-16 ans pour en faire des tueurs.
Vous écoutez RTL.
Pablo Escobar.
La curiosité est un vilain défaut.
Le problème, c'est que Pablo n'était jamais aussi dangereux que quand on s'apprêtait à le coincer.
Pablo Escobar est mort, mais le trafic de drogue continue, c'est évident.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
Et 24 ans après sa mort, Pablo Escobar fascine encore. Parlez-en aux fans de la série Narcos, c'est le héros des deux premières saisons. Tony Comiti, je rappelle que vous êtes journaliste, producteur et le seul journaliste français à avoir rencontré, interviewé avec Jean Bertolino, Pablo Escobar. Il vous dit qu'il a fait deux erreurs dans sa carrière, entre guillemets, lesquelles ?
Après l'interview, parce que je parle espagnol, il est venu me voir. Il m'a dit, voyez, on a commis deux erreurs. La première erreur, c'est qu'on a laissé rentrer la cocaïne dans nos quartiers à Medellín. Et c'est créé des milliers de petits Pablo Escobar qui se sont drogués et qui se sont entretués. Donc ça a commencé à provoquer une espèce de malaise, et notamment les mères de famille qui voyaient leurs enfants mourir. Ça, c'est la première erreur. Comme il m'a dit, c'est comme à Naples ou comme à Palerme. Ils ont laissé rentrer l'héroïne dans leur quartier. C'était le début de la fin.
Et la deuxième erreur,
qui est fondamentale, c'est que Pablo Escobar s'est attaqué aux institutions politiques de son pays. Il a été élu député pour justement lutter contre l'extradition. Ils étaient tous extradables, ces gens-là. Mais il s'est...
Parce que réclamé, pardon, par la justice américaine.
Par les Américains,
entre autres.
Bien évidemment. Donc le problème, c'est qu'il avait en face de lui une oligarchie qu'il critiquait tout le temps. Ils ne l'ont pas laissé faire. Et il a été humilié, ils l'ont viré, il a été humilié. Et c'est là où a commencé une guerre terrible. On parle de 20 000 à 30 000 morts.
Alors pourquoi Pablo Escobar continue de fasciner ? C'est vrai que pour ceux qui ont vu la série Narcos, il y a une vision un tout petit peu romantique de ce héros qu'il faut rappeler est quand même un des plus grands criminels que cette terre ait porté. On va poser la question à un historien spécialiste de l'Amérique latine. Bonjour Thierry Noël, bienvenue.
Bonjour.
Pourquoi est-ce qu'il nous passionne encore aujourd'hui Pablo Escobar ?
Ah, écoutez, ça reste une des personnalités les plus marquantes de l'Amérique latine. Et en termes de narcotrafic, qui est un mal qui n'en finit jamais, c'est quelqu'un qui a évidemment joué un rôle fondamental.
Parce que qu'est-ce qu'il met au point ? C'est un pionnier du narcotrafic. Est-ce qu'il a une méthode de management tout à fait personnelle ?
Oui, c'est un pionnier à plus d'un titre. C'est pas forcément lui qui a tout inventé, mais c'est lui qui a systématisé, structuré et organisé beaucoup de choses de ce qu'est le trafic encore maintenant. Et entre autres aussi poser des règles, d'où le fameux platin au plomb, l'argent ou le plomb.
Oui, donc on payait ou on se faisait descendre ?
Pas forcément on paye ou on accepte l'argent, en fait. C'est surtout accepter d'être corrompu ou être abattu. Et qui va mettre en place, ça va toucher à la fois ses rivaux, la concurrence, ses ennemis, mais aussi évidemment les autorités, les juges, les policiers, militaires et autres, voire même les journalistes qui oseraient s'opposer à lui. Parce qu'il a mis en place, effectivement, en dehors d'un système de sécurité fondé sur des tueurs, les fameux sicarios, il a mis en place, un des premiers à mettre en place un système de corruption généralisé, à la fois en Colombie et aussi à l'international.
Comment il était devenu trafiquant de drogue ?
Oui, c'est un glissement en fait assez rapide. Hein. C'est quelqu'un qui est né dans un milieu humble, hein, mais toutefois assez éduqué, dans les faubourgs de Medellín, la deuxième ville du pays. Et déjà, le petit enfant, on sait qu'il commençait déjà à faire des trafics en classe avec ses camarades. L'adolescent est très vite devenu délinquant, voleur de voiture, petit braqueur. Et ensuite, le jeune homme est vite passé au trafic. Alors d'abord à la contrebande, en fait, hein, de cigarettes, de matériel électroménager et autres. Et très rapidement, on était en plein boom hein, des drogues en général et de la cocaïne en particulier. Très rapidement, il a compris que c'était l'activité qui pouvait rapporter le plus.
Et au plus fort de son activité, c'était un homme très riche, Pablo Escobar.
Alors, c'est probablement l'un des plus riches qu'il ait eu, et c'était une immense fortune de son époque, c'est une chose. Après, il y a toujours une ambiguïté, on ne sait pas toujours trop entre le chiffre d'affaires, c'est-à-dire est-ce qu'il était capable de rapporter les bénéfices réels. Il est certain que il devait quand même avoir de très très grosses dépenses. Et on se rend compte que quand les chargements de cocaïne n'arrivent plus, sa fortune s'effondre très vite. Après, on trouve encore aujourd'hui des propriétés qui lui appartenaient. Donc il a une immense fortune.
Merci infiniment Thierry Noël. Vous êtes l'auteur de Pablo Escobar, trafiquant de cocaïne aux éditions Vendémiaire. Merci. Et puis tout de suite, on va continuer de raconter votre histoire, l'histoire de ce documentaire sur Pablo Escobar, Tony Comiti. Évidemment, vous n'avez pas pu le diffuser tout de suite comme ça. Vous avez reçu des menaces de mort. On va raconter pourquoi. À tout de suite les curieux.
Soyez fiers d'être curieux.
Vous écoutez RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, de 14h à 15h.
La curiosité est un vilain défaut.
Une partie de la population rend hommage à celui qui inspirait crainte et respect. Pablo. Il scande le prénom d'un assassin en qui il voit un bienfaiteur parce qu'il offrait des logements sociaux avec de l'argent sale. Et ce sont les mêmes que l'on retrouve aujourd'hui pour veiller le corps, en présence de la mère qui crie sa douleur et de la sœur qui menace.
Pablo Escobar est dans l'œil et l'oreille de notre curiosité avec le producteur et journaliste Tony Comiti. Vous nous avez raconté ce reportage que vous avez fait incroyable, pas facile de rencontrer Pablo Escobar. Vous avez passé quelques heures avec lui, vous l'avez filmé, il vous a raconté sa carrière, sa passion pour la drogue. Et ce documentaire, alors vous rentrez en France, vous devez le diffuser sur TF1, ça se passe bien ?
Mais ça se passe pas terriblement bien, non, parce que en fait, ils se rendent compte, que, et notamment lors de l'interview que nous avions fait avec Jean Bertolino sur Pablo Escobar, c'est que nous avions établi le lien, le vrai lien du cartel de Medellín. C'est-à-dire qu'il y avait à table les Ochoa, qui est une autre partie du cartel, et Pablo Escobar. Et cette simple preuve pouvait les amener à une extradition immédiate. Donc là, ils ont pris conscience. Alors qu'ils nous avaient laissé tout filmer, hein, que ce documentaire allait les faire extrader aux États-Unis.
Comment ils vous menacent?
Oui, comment ils vous font savoir qu'il ne faut pas le diffuser?
Parce qu'on a un deal au départ qui est de montrer au cartel de Medellín le film qu'on a fait. Deal qu'on accepte. Ouais. Qu'on accepte. Donc je suis reparti à Medellín leur montrer. Ça s'est très mal passé. Notamment pendant la projection, il y avait une trentaine de personnes. Et la fille de Pablo Escobar s'est levée et a dit. La fille de Fabio Ochoa s'est levée et dit: si ce film passe à la télé française, nous serons tous extradés. Le problème de des cartels, leur discours, c'était: il vaut mieux une tombe en Colombie qu'une prison aux États-Unis. Mmh. Ça, c'était leur grande trouille.
Et donc ils sont venus vous menacer après? Comment ça s'est passé?
Ils nous ont interdit de diffuser ce film. Bon, je suis rentré à Paris, j'ai passé un sale quart d'heure quand même pendant la projection, je vous signale.
Ben oui.
Et je suis rentré à Paris, j'ai dit à Jean Bertolino, voilà, on a quand même un gros problème. Et à ce moment-là, il y a deux types qui sont probablement avec un accent napolitain, qui sont rentrés à TF1, on ne sait pas comment, et qui sont rentrés dans les bureaux de 52 sur la Une, et qui nous ont dit: c'est vos ascendants et vos descendants avant vous, et m'ont montré les photos de mes enfants.
Quelle horreur.
Donc une menace de mort.
Donc la menace était vraiment... c'est pas une menace en l'air.
Comment ça s'est arrangé?
Eh bien, on est monté voir Patrick Lelay, qui a pris conscience de la menace. Donc on n'a pas diffusé le film. Le lendemain, François a fait sa une: les mafias colombiennes menacent TF1. Bon, ça s'est arrêté là. On a pu sortir le documentaire quelques années après, à la mort de Pablo Escobar, et au démantèlement du cartel de Medellín, parce que le cartel a été complètement démantelé. Juste derrière.
Et on peut découvrir un autre documentaire produit par Tony Comiti, c'est dans Enquête exclusive au mois d'octobre, et c'est sur le bras armé de Pablo Escobar, il s'appelle Popeye.
Alors Popeye était le...
C'était son bras armé,
Oui, Popeye était celui qui organisait les crimes pour Pablo Escobar. Et d'ailleurs, un jour, il me dit, pendant l'interview, il dit voilà, Pablo me demande d'aller tuer une femme à l'hôtel Hilton de Carthagène. C'était le seul moment où on pouvait la tuer. Donc je suis allé, je lui ai tiré dessus, mais il y avait un policier qui m'a mis une balle dans le jambe. J'ai pu partir en courant, je me suis réfugié. Et là, j'ai vu Pablo Escobar arriver et il m'a dit ça, c'est un vrai patron.
À découvrir sur M6 d'Enquête exclusive. Merci infiniment.
Merci Tony.
Pour vos révélations, Tony Comiti.
Vous écoutez RTL.